Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Je m'appelle Gilles Gabel, je suis un des porte-parole du collectif Le CIAN, qui regroupe aujourd'hui 88 associations de parents. Ça, c'est un point important. Il y a des professionnels qui y sont à titre individuel, bien sûr. Et le but donc, de ce collectif, c'était de fédérer les actions locales, régionales, de façon à avoir au niveau national une représentation et pouvoir donc transmettre nos idées, nos messages, nos exigences, voire parfois nos doléances, et de façon structurée, de façon étayée, notamment en faisant appel à ce que les anglo-saxons appellent le evidence-based medicine, donc de la médecine factuelle, et donc de changer la donne, parce que on avait constaté, et on constate toujours, un certain nombre de problèmes et de dérives. Donc on va y venir. J'ai intitulé cette présentation « Restaurer la confiance ». Je pense que le mot « confiance » est en médecine quelque chose d'important. C'est le moteur de la relation médicale. Et il y a un problème de confiance aujourd'hui dans la médecine en général et dans l'obstétrique en particulier. Pourquoi le CIAN ? Quel constat au quotidien ? Eh bien, on constate effectivement une absence de choix et d'alternative quant au lieu de naissance. Et ça, contrairement à nos voisins, on dit souvent que si la France est notre patrie, l'Europe est notre pays. Et quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, et pas très loin, en Hollande, en Suède, même en Angleterre, on voit d'énormes différences et qui ne sont pas médicalement explicables. Elles le sont peut-être historiquement et culturellement, mais qui ne sont pas médicalement justifiées. Un accompagnement de la maternité, ou une prise en charge, comme vous dites, disent les professionnels, pardon, de la maternité de plus en plus morcelée et malheureusement de plus en plus anonyme. Hein, que ce soit au cours du suivi, de l'orientation et de la naissance et de l'accouchement lui-même. Des difficultés d'accès à l'information, au dossier médical, à des enquêtes de satisfaction qui sont pour nous partielles car faites par des établissements qui sont à la fois juges et parties, un déficit d'évaluation et de contrôle, notamment par rapport aux règles de bonne pratique, parce qu'il y a des règles de bonne pratique, mais elles sont plus ou moins suivies, ou il n'y en a pas du tout. Il y a des hétérogénéités au niveau des établissements, il y a des hétérogénéités au niveau des équipes, et il y a des différences de comportement au niveau du personnel lui-même au sein des services. Donc beaucoup d'actes aux opérateurs dépendants. Un manque de données objectives concernant la sinistralité, les accidents médicaux, la morbidité, hein, et donc je vous parlais effectivement donc des pratiques opérateurs dépendants. Un défaut d'indicateurs, et ça c'est, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, savoir ce que l'on fait, pouvoir mesurer son action, donc avoir un retour par des indicateurs, et malheureusement, il n'y a pas de système aujourd'hui qui donne des indicateurs fiables, à part peut-être au DIPOG, qui donne quelques indicateurs. Les grands plans gouvernementaux, que ce soit le projet compact, qui devrait donner des indicateurs, se résument à 4 indicateurs en périnat, mortalité maternelle, mortalité fœtale, ou que ce soit des projets du type... je vous reviendrai tout à l'heure. Donc un défaut d'indicateurs permettant d'avoir une analyse des critères qualitatifs, et notamment en termes de résultats. Le problème de l'accréditation de l'ANAES, c'est à ça que je voulais venir. L'ANAES a mis en place des systèmes d'accréditation des établissements et ils ont refusé, on l'avait demandé, mais ils ont refusé de mettre des indicateurs, type césarienne, type taux d'épisiotomie, déclenchement et autres. Donc on va accréditer des établissements sans savoir comment ils se comportent sur le plan des pratiques obstétricales. Donc il y a de notre part une réelle attente en matière d'information qui soit indépendante et qui nécessite de la transparence. Autre constat, donc absence ou mauvaise prise en charge de la douleur, pratique invasive sans analgésie, obligation médicale abusive. Et on a parlé beaucoup de cytocinon. Je voudrais quand même vous signaler une chose, c'est qu'on soumet des femmes au cytocinon sans analgésie. Alors effectivement, ça augmente le travail, mais ça manque aussi la douleur. À tel point que des femmes qui ne souhaitaient peut-être pas avoir une péridurale ont tellement mal qu'elles demandent, voire qu'elles supplient pour l'avoir. Alors, la demande des femmes en péridurale je pense qu'il faut bien penser à quoi, ce qu'on entend par demande. Des manquements aux règles de l'information, du consentement, de la participation. Je rappelle que depuis le 4 mars 2002, il est très clair, ça a été mis dans le texte aujourd'hui, il y a des règles d'information, loyales, transparentes, adaptées. Il y a obligation de consentement à l'acte. Consentement à l'acte. Le fait d'informer ne suffit plus. Il faut que la personne soit d'accord. Et il y a une participation aux décisions concernant sa santé. Donc je repense à la dame tout à l'heure qui parlait, qui nous racontait son vécu. Le comportement de la sage-femme, aujourd'hui, est illégal. Il faut savoir qu'un protocole maison n'est pas opposable à un tiers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire c'est le protocole, donc je l'applique. Non, non, vous devez d'abord respecter, les règles de la République ne s'arrêtent pas au port des hôpitaux, vous devez d'abord respecter les règles de base, information, consentement, participation aux décisions. Bon, je vous passerai sur les multiplications des scandales sanitaires et médicaux, distilbène, thalidomide, sang contaminé. Je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'il y a eu par le sang contaminé à peu près un peu plus de 5000 contaminations en Europe, 2457 ont eu lieu en France. La moitié des contaminations par le sang ont eu lieu dans ce pays. Et rappelez-vous une chose quand même, c'est qu'on n'a pas rendu justice à beaucoup de familles. Il y a des milliers de familles qui n'ont pas eu la justice sur le plan moral. On leur a donné un petit peu d'argent pour acheter leur silence, mais sur le plan moral, il n'y a pas eu de réparation. Apparition donc d'étranges notions juridiques, responsable mais pas coupable, coupable mais pas condamnable, condamnable mais pas justifiable. On parle de consentement présumé. Donc il y a à l'évidence certains manquements au respect de la personne et qui portent atteinte aux droits du citoyen. Je vais continuer cette longue litanie. Prévalence de la technique au détriment des conditions de la physiologie. Là, c'est bien souligné. Accouchement dirigé, épisiotomie césarienne. Performance médicale, mais développement de pratiques invasives qui augmentent les risques iatrogènes, notamment les infections nosocomiales, qui, rappelons-le, sont probablement, parce que là c'est pareil, il y a un problème de données, de transparence, qui sont probablement supérieures aux accidents de la route. Mort fœtale, donc par amyosynthèse, on estime à peu près entre 600 et 700 bébés perdus par, suite aux fausses couches d'amyosynthèse, liées à l'amyosynthèse, 600 700 bébés sains, enfin fœtus sains, pardon. Responsabilité limitée des praticiens en milieu hospitalier, puisque c'est la structure hospitalière publique qui assume la responsabilité civile. Responsabilité décennale, supportée par l'établissement, et aucune responsabilité du prescripteur. Et puis il faut le dire, bon, il y a quand même une émergence d'un esprit citoyen, mais aussi consumériste, en réaction, parfois, il faut le dire, au mercantilisme de certains professionnels. Et rappelons le succès donc, de certaines études, enquêtes faites par des journaux de grand public, enquêtes qui sont très décriées, à juste titre d'ailleurs, mais il n'y a que ça. C'est que malheureusement, il y a une demande, mais la réponse, c'est que ça. On n'a pas de données fiables venant du ministère ou venant d'autres organismes, nous avons des données fiables. J'entends données fiables comparatives. Comparatives. Donc, une véritable exigence de qualité de la part des parents. Je ne vais pas m'étendre sur la définition de risque et de danger, on en parle beaucoup. Donc, une chose basique, rappeler une chose très simple, c'est qu'un acte médical, c'est le déploiement d'un acte technique dans le cadre d'une relation humaine. Et on se rend compte, et particulièrement à l'obstétrique, que ça se résume surtout à des actes médicaux et que la relation humaine, elle est passée au second plan, voire elle a même disparu. Et c'est pour nous quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc revoir l'authenticité de la relation médicale et la singularité de ces relations pour instaurer et réinstaurer la confiance. Donc ça passe par un certain nombre d'évolutions et de mises en application de certaines valeurs. Ce sont des valeurs citoyennes que l'on défend, c'est des valeurs de transparence sur les pratiques, sur les coûts, sur les performances, par une agence qui soit réellement autonome. Vous allez à l'ANAES, vous dites bonjour docteur, frappez à la porte, bonjour professeur, etc. La santé, ce n'est pas que le système de soins. Ce n'est pas que le système de soins. Une information grand public libre et indépendante et la levée de certains freins institutionnels. Je vous parlais de l'ANAES, vous allez au ministère de la Santé, c'est pareil. Hein. Vous faites toc-toc à toutes les portes, c'est un docteur derrière ou un professeur. Hein. Je suis désolé, la santé, c'est l'alimentation, c'est l'éducation, c'est la recherche, c'est l'instruction et c'est le système de soins. Bon, sécurité sanitaire, oui, bien sûr, déployer une réelle action de prévention, appliquer le principe de précaution, hein, on ne fait pas si on ne sait pas, maîtriser la chaîne sanitaire, produits, pratiques, formations, et responsabiliser au vu des risques iatrogènes. Le respect, vous en parliez tout à l'heure, respect, primauté de l'information, règles du consentement éclairé, prise en charge de la douleur, induite ou non, actualiser les protocoles, accès au dossier médical, défense des libertés. Des libertés pour tout le monde, vous professionnels, patients, citoyens. Rétablir l'authenticité de la relation, préserver et promouvoir la relation humaine, changer de langage, changer de terme. On parle de primipare, de multipare, de parturiente, d'accoucher, de césarisé. Non, c'est une personne césarisée. Changer les attitudes et comportements, respect des projets de vie, respect des projets de naissance, valoriser le positif, reconnaître les victimes, car l'erreur est humaine, mais la réparation aussi. Pourquoi le CIAN donc ? Alors, nous sommes, donc, comme je vous disais, un regroupement de 88 associations. Nous fonctionnons, nous n'avons pas de structure juridique, nous fonctionnons uniquement par une convention qui définit nos relations. Nos règles sont la transparence, sont l'application du principe une association égale une voix, application donc des règles médecine factuelle, donc toutes nos positions sont prises sur des bases scientifiques reconnues. Donc nous avons une position un petit peu novatrice dans la mesure où dans le paysage de l'obstétrique, il n'était pas habituel qu'une force organisée, structurée, monte au créneau, frappe à la porte du ministère, frappe à la porte de l'ANAES, enfin la HAS maintenant, et s'impose. Et nous avons en 2 ans réussi à le faire, et nous sommes, je pense, aujourd'hui reconnus comme des interlocuteurs crédibles et parfois écoutés. Donc 88 associations, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, vous avez ici la liste. On a créé donc en bas, vous verrez, un groupe d'experts qui nous appuient et qui valident certaines de nos positions. Donc soit des personnes morales, soit des personnes physiques. Et ce sont des professionnels. Donc, un certain nombre sont ici dans cette pièce. Quels objectifs ? Donc structurer, représenter, proposer, informer, responsabiliser, défendre. Nous avons pour l'année 2005 fixé par consensus un programme de travail qui porte sur 7 plans et qui sont défendus par toutes les associations qui composent le CIAN. C'est donc le suivi du plan Périnat, c'est l'étude et le lancement d'un label qualité pour les lieux de naissance, les maternités pour l'instant, peut-être un jour les centres physiologiques, et peut-être demain encore les maisons de naissance, pardon. Le projet de naissance, la mise en place de fiches pratiques, le travail donc auprès de l'ANAS, HAS maintenant, et les autres institutions. Et il faut savoir que le CIAN a lancé l'année dernière, pas tout seul, soit que Sengoff ou de la CNAM, a lancé 4 saisines pour des recommandations professionnelles auprès de l'ANAS, et qu'elles ont été validées cette année par la HAS. Donc il y a notamment une recommandation sur la pratique de l'épisiotomie, une recommandation sur l'expression abdominale, une sur le déclenchement, et la quatrième, c'était le dépistage de la trisomie 21 et la pratique de la myosynthèse. Je reviens là sur le dossier épisiotomie, qui est vraiment un dossier emblématique pour nous. On a lancé ce pavé dans la mare, bien que d'autres l'aient fait avant. Et c'est pour nous une action emblématique. Notre but, c'est de faire baisser le nombre d'épisiotomies dans ce pays au niveau des pays référents, c'est-à-dire aux environs 10%. Hein, tout simplement parce que les Anglais, il y a 20 ans à peu près, étaient aux environs de 53 ou 54%. Et ils ont réussi à baisser le nombre d'épisiotomies. Et aujourd'hui, ils sont à peu près à 13. Et ça continue à baisser. Et nous, aujourd'hui, on en est à 44%, je crois, en moyenne nationale. 48, bon, il y a une divergence entre l'IPOG et... Bon, en gros, une femme sur deux, ou pas loin. Donc, il faut que ça baisse. Et là, c'est, je dirais, il n'y a pas de quartier pour nous. Tous les moyens sont bons, légaux, mais tous les moyens sont bons. Et enfin, donc, suivi du dossier médical personnel, la mise en place et toute la connexion donc avec le dossier de maternité. Voilà. Nous travaillons en collaboration avec un autre collectif qui s'appelle le CIS, qui est un collectif beaucoup plus général, qui est le collectif interassociatif sur la santé, et qui regroupe donc de grosses associations comme la Ligue contre le cancer, les Paralysés de France, etc. Donc on a quelques groupes d'échanges et groupes de travail avec eux. On a constitué donc brièvement un comité restreint, c'est-à-dire en gros un bureau. Hein, et vous avez donc la liste des gens qui y participent avec les responsabilités. C'est une coordination, hein, donc il n'y a pas de statut,
Pas
il n'y a pas de
hiérarchie.
bureau, il n'y a pas de président,
Il y a des
mais il y a des
représentants.
fonctions qui correspondent à ça. Voilà, je vous ai donc brièvement présenté le CIAN. Et on va terminer par une petite note d'humour. Je vous remercie.
Merci.